fil info.
Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. La valeur des terres agricoles au Canada a augmenté de 11,5%. Un rapport publié par Financement Agricole Canada mardi indique que la valeur moyenne des terres agricoles au Canada a connu une augmentation de 11,5% en 2023. Il s'agit toutefois d'une légère baisse comparativement à 2022 où la croissance enregistrée était de 12,8%. Les hausses de la valeur des terres agricoles reflètent des perspectives positives pour la demande de produits agricoles et les aliments de qualité que nous produisons au Canada. C'est ce que se félicite Jean-Philippe Gervais, économiste en chef au Financement Agricole Canada. Dans ce rapport, Financement Agricole Canada constate qu'il y a eu une légère baisse des transactions liées aux terres agricoles en 2023 comparativement à l'année précédente, soulignant le fait que les exploitants agricoles ont fait preuve d'une plus grande prudence dans leurs décisions d'investissement. Selon Financement Agricole Canada, les recettes tirées de la production de céréales, d'oléagineux et de légumineuses au Canada ont augmenté de 0,4% en 2023. La Société d'État prévoit que ces recettes chuteront de 13,2% en 2024. Jean-Philippe Gervais conseille aux producteurs agricoles d'élaborer un plan de gestion des risques, mais aussi de le mettre à jour au fur et à mesure que l'économie évolue. En 2023, la Saskatchewan a connu la plus forte augmentation de la valeur des terres agricoles cultivées au pays, soit une hausse de 15,7%. C'est légèrement supérieur à la croissance de 14,2% enregistrée en 2022 et plus du double de l'augmentation de 7,4% observée en 2021. Ces augmentations ont été observées dans l'ensemble de la province, à l'exception des régions du centre-ouest qui ont fait baisser la moyenne. Cette baisse contraste avec la hausse de 8,0% enregistrée en 2022 et la hausse de 18,1% enregistré en 2021 et selon le Financement Agricole Canada, cela reflète la tendance du marché immobilier généralement en Colombie-Britannique qui a aussi ralenti en 2023. Les députés manitobains verront leur salaire augmenter en avril. Le salaire annuel de base de 57 élus provinciaux du Manitoba passera de 102 998 $ à 106 602 $ le mois prochain, soit une hausse de 3,5%. Cette augmentation est prévue par la loi sur l'Assemblée législative et vise à ajuster la rémunération des députés au coût de la vie. Elle est déterminée par le commissaire chargé du traitement des allocations et des prestations de pension des députés sur la base du taux d'inflation. Cette augmentation n'est pas tout à fait du goût du directeur de la région des Prairies pour la Fédération canadienne des contribuables, Gage Obrich. Gage Obrich souligne cependant l'aspect positif du système en place au Manitoba dans lequel le niveau de rémunération des députés provinciaux est supervisé par un commissaire indépendant. C'est le conseiller juridique Michael Warrior qui occupe ce poste depuis sa création en 2007. Son dernier rapport sur le sujet date de 2017, mais une nouvelle étude est en cours. Dans un courriel, le chef du caucus du Parti progressiste conservateur du Manitoba, Greg Nesbitt, explique qu'il se réjouit de rencontrer bientôt le commissaire pour lui faire part du point de vue de notre groupe parlementaire sur le sujet, sans préciser la nature de son point de vue. Pour le professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg, Félix Mathieu, l'augmentation du salaire des élus est raisonnable, pondérée et nécessaire si l'on veut inciter les gens à s'investir dans la vie politique. Cette hausse à venir place les élus manitobains dans la moyenne des autres députés au pays. Les élus de la province voisine de la Saskatchewan touchent une rémunération annuelle de base équivalente à 106 384 $. Les députés provinciaux les mieux payés au Canada sont les élus québécois, dont la rémunération s'élève à 131 766 $. Tout en bas du tableau se trouvent les élus de l'Île-du-Prince-Édouard avec 78 541 $ par an. Grève d'employés municipaux d'Edmonton. Voici les services touchés. Des milliers d'employés municipaux de la ville d'Edmonton débrayeront jeudi à 11h face à l'impasse des négociations pour une nouvelle convention collective. Voici les grandes lignes des services touchés par les manifestations. Les personnes responsables de répondre aux appels du 911 dans le territoire d'Edmonton sont touchées par le débrayage de jeudi. Ces employés répartissent notamment les requêtes faites au 911 vers vers les services appropriés comme la police, les ambulanciers ou les pompiers. Ils peuvent aussi diriger les personnes au bout du fil vers des lignes téléphoniques non urgentes en cas de besoin. Le service de police d'Edmonton a un plan de secours pour l'arrêt de travail des opérateurs. Les services de police affectent des employés avec de l'expérience dans ce domaine pour remplacer ceux en débrayage. La priorité, affirme la police, est de déplacer des employés qui ne sont pas en première ligne pour combler cette tâche. La police recommande de continuer de composer le 911 en cas d'urgence lors du débrayage. Le bâtiment pour vérifier les informations policières ne sera plus ouvert au public lors du débrayage. La police avertit donc qu'aucune nouvelle demande pour la vérification d'antécédents criminels ou à des fins civiles ne sera acceptée. Il en va de même pour la prise d'empreintes digitales et pour les permis de système d'alarme. Le service de police d'Edmonton recommande donc d'attendre la fin de la grève pour faire la demande auprès d'un de ses services. Toutes les bibliothèques publiques d'Edmonton cesseront toutes leurs activités jeudi à 11h. La bibliothèque rappelle qu'aucun frais de retard ne seront exigés après le débrayage car la bibliothèque n'exige plus de payer pour le retour d'emprunt en retard depuis 2020. Les prêts placés en attente lors de la grève seront disponibles à la levée de ce moyen de pression. Le redémarrage de la raffinerie de Burnaby pourrait s'accompagner d'odeurs et de fumée. La raffinerie Parkland dans la région métropolitaine de Vancouver devrait reprendre ses activités dimanche cette semaine après qu'un problème imprévu l'a forcé à fermer ses portes. Un communiqué publié sur le site web de la raffinerie Parkland indique que les équipes amorceront le processus en mettant en marche le ventilateur principal du système de chauffage de l'installation située à Burnaby en Colombie-Britannique. L'entreprise indique que cette étape essentielle devrait produire des périodes de brûlage à la torche élevée et un certain risque d'odeur, de bruit et de fumée. L'entreprise a ajouté qu'elle mettrait son équipement en marche en toute sécurité après ce qu'elle a appelé une inspection approfondie, un nettoyage et une maintenance de routine. Une fois l'installation opérationnelle, Parkland affirme qu'elle passera à la phase suivante de ses activités en commençant à alimenter la raffinerie en pétrole brut. Elle affirme qu'elle travaille en étroite collaboration avec la communauté et les organismes de réglementation et qu'une surveillance continue et indépendante de la qualité de l'air sera assurée pendant le processus de redémarrage. Lors de l'incident du 21 janvier, une forte et désagréable odeur de plastique brûlé s'est répandue dans certaines parties du Grand Vancouver et a suscité plus d'une centaine de plaintes de la part des habitants de la région. Selon un rapport de WorkSafe BC, 9 travailleurs de la raffinerie Parkland ont eu besoin de premiers soins en raison de l'incident survenu ce jour-là. Parkland avait publié un avis sur son site Internet deux jours auparavant, indiquant que les personnes vivant à proximité pourraient percevoir du bruit et des émanations provenant de l'installation à cause de conditions météorologiques qui se sont abattues notamment sur le Grand Vancouver. Métro Vancouver surveille les émissions de particules de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre provenant de la raffinerie Parkland. La nation Déné réitère son appel à une enquête publique indépendante sur la saison des incendies de forêt de 2023 dans les territoires du Nord-Ouest. L'exigence d'une enquête et l'impact des incendies de forêt et des évacuations connexes sur les communautés des territoires du Nord-Ouest a été au centre d'un panel virtuel organisé par la nation Déné et les gardiens de l'eau. Le panel a été diffusé sur CKLB et diffusé en ligne. Plusieurs leaders Déné ont critiqué la gestion de la crise par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Ils ont déclaré que la réponse d'urgence devrait être examinée par un tierce partie indépendante et inclure une large contribution du public, en particulier des peuples autochtones. Sangri a déclaré que la Première Nation devrait avoir une relation de nation à nation avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Il a exprimé le besoin de connaissances autochtones et le leadership dans les efforts de lutte contre les incendies et a appelé au financement fédéral pour former davantage de résidents en tant que pompiers. Le premier appel de la nation Déné en faveur d'une enquête publique complète et indépendante sur la saison des incendies de forêt de 2023 remonte à octobre de l'année dernière. La ville de Yellowknife a lancé une revue appelée « Évaluation après action de la réponse de la municipalité aux incendies de forêt ». Deux ministères du gouvernement des territoires du Nord-Ouest ont également commandé des évaluations après action de la réponse du territoire à la saison des incendies de 2023. Une de ces revues, initialement dirigée par le ministère des Affaires municipales et communautaires, est maintenant dirigée par le ministère de l'Exécutif et des Affaires autochtones sous la surveillance du premier ministre. La ville et les gouvernements des territoires du Nord-Ouest ont déclaré que leur revue impliquerait la contribution du public, mais ne désignerait ni n'évaluerait la performance ou la compétence des individus. Des cliniques mobiles et des services de télémédecine vétérinaire sont offerts au Nunavut. Les équipes de Vétérinaires sans frontières sont actuellement en déplacement dans 3 communautés de l'Est du Nunavut pour prodiguer des soins à des animaux domestiques qui le requièrent. Pendant ce temps, plus à l'ouest, l'organisme à but non lucratif a récemment lancé un programme de télémédecine vétérinaire. Ces services viennent combler un manque de part et d'autre du Nunavut où il n'existe aucune clinique vétérinaire. La branche de Vétérinaires sans frontières en Amérique du Nord a déployé des vétérinaires et des technologues en santé animale à Igloolik, à Kikitarujuak, à Kimirut jusqu'au 15 mars. Les équipes visitent chaque communauté pour une durée de 3 à 4 jours et sont en mesure, entre autres, d'administrer des vaccins ou des médicaments et de faire des examens de suivi. À l'exception d'Igloolik, elles peuvent aussi effectuer des opérations chirurgicales. L'organisme offre ce type de clinique mobile depuis 2019 au Nunavut. En 2023, les cliniques mobiles ont reçu 237 animaux dans ces 3 communautés, majoritairement des chiens. La gestionnaire des programmes du Nord canadien de Vétérinaires sans frontières, Mariki van der Velden, soutient que l'absence de vétérinaires permanents au Nunavut rend la demande en soins très importante. Depuis plusieurs mois, la Société de protection des animaux dispose d'un bâtiment à Iqaluit où elle accueille occasionnellement des vétérinaires en rotation. Le service est gratuit et est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les communautés de Joahaven et de Kugluktuk au Nunavut, ainsi qu'à Tuktoyaktuk au territoire du Nord-Ouest. La docteure Michelle Touma souhaiterait pouvoir l'élargir au-delà de la période d'essai. Selon le financement disponible, les clients pourront ainsi solliciter les services des technologues vétérinaires par téléphone à travers Animal Health Link, une entreprise qui fait la répartition des urgences vétérinaires.
Le fil sportif.
Curling, un 3e championnat canadien consécutif pour Brad Gouchou. L'équipe Canada de Brad Gouchou est championne du Brier 2024 présenté à Regina. Les représentants de l'Unifolier ont défait la Saskatchewan par la marque de 9 à 5 dimanche soir au centre Brent à Regina. Il s'agit d'un 6e titre au Brier pour Brad Gouchou et deux de ses coéquipiers, Geoff Walker et Mark Nichols. La Saskatchewan présente sa première équipe de cheerleading au War Man Cheer Classic. Pour la première fois de son histoire, la Saskatchewan a aligné son équipe provinciale de cheerleading lors du War Man Cheer Classic où plus de 3500 athlètes âgés de 3 à 30 ans se sont affrontés ce week-end dans la ville de War Man située au nord de Saskatoon. Habit noir, vert et blanc, un nœud pour les cheveux dorés avec des brillants, sans oublier l'écriture Sask et le maquillage, l'équipe de Saskatchewan était l'une des formations les plus attendues sur la scène. La curleuse Brianne Harris suspendue pour dopage. La quadruple championne canadienne de curling Brianne Harris a provisoirement été suspendue après avoir subi un contrôle positif au Ligandrol. L'athlète de 32 ans a toutefois confié à CBC Sport qu'elle portera la décision en appel au tribunal arbitral du sport, arguant qu'elle n'a pas pris de la substance délibérément. Harris, première de l'équipe Inarson, avait été écartée au tournoi des cœurs le mois dernier, quelques heures avant que son équipe n'amorce la défense de son titre. Un franco-manitobain au sein de l'équipe nationale de Skeleton. En juin 2023, Sébastien Rignier était à Calgary. Il s'est présenté au centre d'entraînement de l'équipe nationale de Skeleton pour essayer un sport qu'il n'a jamais pratiqué. Durant les tests physiques, il a égalisé le record canadien pour le meilleur départ en Skeleton. À seulement 24 ans, il s'impose alors comme l'un des meilleurs espoirs du Canada dans cette discipline. Sébastien Rignier est avant tout un spécialiste des épreuves de sprint. En parallèle de ses études universitaires, il compétitionne pour l'équipe d'athlétisme des Bisons de l'Université du Manitoba. Alexandria Loutit a un cheveu du podium en Norvège. Alexandria Loutit a pris le 4e rang à la Coupe du monde de saut à ski de Trondheim mardi soir en Norvège. Elle était à un cheveu d'accéder au podium. L'Albertaine a obtenu un score de 253,9 au terme de ses 2 sauts au petit tremplin. Elle a été devancée de justesse par la Slovène Nika Krisnar qui a récolté 255,2 points. Loutit a été la seule à franchir la marque des 100 mètres avec une distance de 101,5 mètres à son 2e saut. Fit Fellas, un programme d'exercice pour hommes d'âge mûr. Au centre communautaire de West Vancouver, un programme d'exercice réservé aux hommes a été créé il y a près de 46 ans. Au-delà de la forme physique, Fit Fellas est aussi un moyen de se rencontrer entraîné. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.